France Culture.
Bon, on se rassemble. C'est la suite des midis de culture. Tout à l'heure, à 13h, je recevrai les réalisateurs Hubert Charuel et Claude Le Pape. Mais tout de suite, place au point culture de Marie Sorbier. Bonjour.
Bonjour Marie. Robert Badinter, qui entre au Panthéon cette semaine, a dit « En prison ou ailleurs, la culture sauve des gens, tout simplement ». Fin de citation. Pourtant, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, en février 2025, a empêché que se tienne en milieu carcéral, je cite, « toute activité ludique, comprendre par là ». Culturel. Alors pour le point culture du jour, je vous propose d'écouter Mouloud Mansouri, ancien détenu, qui depuis sa sortie de prison œuvre, malgré les freins institutionnels, à une meilleure accessibilité de la culture pour les détenus. Mouloud Mansouri, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur de l'association Fujo, qui organise des concerts en prison et des ateliers culturels également. Vous venez de faire paraître un manifeste pour l'accès à la culture dans nos prisons. Pourquoi avoir décidé de vous investir auprès des prisonniers et pourquoi via la culture ?
Alors moi, j'ai passé pas mal d'années en détention. Je suis resté 10 ans d'affilée. Et je me suis rendu compte que, quand j'y étais, l'accès à la culture était vraiment... un truc qui existait à peine. C'était pas en tout cas une priorité à l'époque des gouvernements. Et du coup, à la sortie de prison, quelques mois après, j'ai monté une association et j'ai fait le tour des quelques prisons qu'il y avait autour de moi, c'est-à-dire dans la région PACA, et je leur ai proposé de leur organiser des concerts. Et à l'époque, il n'y avait pas de coordinateur culturel, donc ils ont facilement accepté. Et à une seule condition, que je ne rentrais pas moi-même, parce que j'étais en conditionnel. Mmh. Et ce que j'ai accepté, et j'ai fait des premiers concerts comme ça, 5 mois après ma sortie de prison. Et ça a super bien marché, tout le monde était content. Et je les ai fait évoluer, pendant plus de 15 ans, on va dire, jusqu'au Covid. Et à partir du Covid, ils ont commencé à restreindre pas mal les activités. Et à chaque fois, à trouver des excuses, en fait, pour contrer un peu toutes ces actions. Donc ça a été vraiment beaucoup plus compliqué jusque-là, jusqu'à l'arrivée de notre cher ministre actuel, où là, en février, il a fait passer une note aux directions interrégionales, à la direction de toutes les prisons, pour dire arrêtez tout ce qui est concert, arrêtez tout ce qui est, en gros, qui peut choquer l'opinion publique.
Mais c'est-à-dire parce que en fait que des prisonniers puissent assister à un concert, ça choque parce que on estime que c'est quoi, c'est du divertissement ou c'est du confort inutile.
En fait, moi je suis pas vraiment à la place de ces gens, donc j'imagine que de voir un concert de Zaz ou de Ninho dans une prison, ça peut déranger. Mais déranger qui en fait ? C'est ça la question. Aujourd'hui, je pense que c'est un vrai problème politique parce que on a un Rassemblement national qui est très fort. Et qui dicte un peu, j'ai l'impression, sa politique à travers des idées, des bad buzz, j'ai envie de dire. Et ils envoient comme ça des infos, parfois même des infox, des trucs qui n'existent pas. Et puis ça passe sur CNews, et puis ça passe sur des chaînes
des intox sur notamment les conditions de vie en prison, où parfois quand on les écoute, on a l'impression que ce sont comme des hôtels,
Si vous lisez mon livre, j'explique que les conditions en détention ne sont pas vraiment très agréables. J'imagine pas quelqu'un pouvoir penser qu'elles sont agréables. Là, par exemple, il y a notre ancien président de la République qui va rentrer en prison, et je peux vous dire que ça va pas être agréable pour lui, alors qu'il sera bien mieux loti que la plupart des détenus. Croyez-moi que son séjour, il va pas être très sympathique. Donc, la réalité de la prison, c'est qu'elle n'est pas du tout agréable pour personne, que tu passes quasiment 22 heures sur 24 en cellule, qu'il y a très, très peu d'activités, mais vraiment très peu d'activités. Il y a des coordinateurs culturels qui sont censés mettre en place des actions culturelles. Mais aujourd'hui, si on nous empêche de pouvoir proposer, nous, des actions culturelles, en fait, on nous empêche de travailler, on empêche les coordinateurs culturels de travailler et on empêche de faire un travail de réinsertion ou d'insertion sur le détenu. Et ça va être un problème pour notre société parce que ces mecs qu'on enferme pendant des mois, des années, voire des décennies, un jour, ils vont ressortir. Et dans quel état on va les faire ressortir ? Parce que si on n'apporte rien de positif à ces gens, on ne peut pas leur demander à leur sortie d'être les meilleurs hommes. C'est pas possible.
Et justement, la culture peut permettre aussi non seulement de voir du beau et aussi parfois de devenir des meilleurs hommes et des meilleurs citoyens. Vous dites, vous, notamment que le rap que vous aimez, voilà, vous avez envie de le partager avec ces prisonniers, mais vous ne faites pas que du rap d'ailleurs dans cette association-là.
Ah non, non, ben, au contraire, on essaye de diversifier notre activité. On a commencé par le rap parce que c'est de là que je viens. Mais finalement, au fil des rencontres, j'ai réussi à ramener des artistes comme Mathieu Chédid, comme Benabar, comme Zaz, comme Kali, comme plein d'artistes de tout horizon. Et ils sont aussi impliqués que des rappeurs comme Caris ou je ne sais pas, Alonso ou Soprano, ou tous ces artistes qui viennent jouer avec nous en prison. Et les artistes, quand on leur propose en général une action comme ça, ils sont heureux de la faire, ils ne vont pas y venir tous les jours. Parce que c'est compliqué pour eux d'aller jouer en prison. Mais en tout cas, ils y vont avec le cœur, ils se donnent à 100%. Les détenus reçoivent quelque chose d'exceptionnel. Et pas que les détenus, les surveillants aussi. Ils adorent quand on leur organise des concerts, parce qu'ils en profitent aussi. Et il y a une atmosphère qui est assez cool pendant les jours qui précèdent les concerts ou après les concerts. Les choses se passent beaucoup mieux en détention. Parce qu'il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose.
Oui, ça crée aussi du lien social à l'intérieur de la prison.
Exactement. Mais plus encore, de toute façon, la culture est un truc important dans la vie de chacun, que ce soit en liberté ou en détention. Tout le monde a besoin d'avoir des moments culturels à soi, quoi. Quel que soit le moment qu'on s'accorde, on a tous besoin d'éléments culturels dans notre vie. Et pourquoi on empêcherait les détenus ?
Quels sont les retours, justement, des détenus que vous avez récoltés ?
En fait, moi, quand je les croise, les retours, ils sont assez simples. C'est des sourires, c'est des merci, c'est des « Ah ouais, je suis jamais allé à un concert de ma vie, putain, mais c'est trop bien, cet artiste, etc. etc. » Et puis après, on développe aussi autre chose, c'est qu'ils viennent au concert, mais derrière, on fait des ateliers culturels. Je pense que dans la vie d'un individu, la culture a une place importante et elle ne doit pas s'arrêter aux portes des prisons. Donc, des fois, je remplis des dossiers de demandes de subventions ou autres, machin là, et ils nous demandent de quantifier les bénéfices de nos actions. Mais en vérité, c'est pas possible, ça se compte pas. La culture, vous, madame, quand vous allez à un concert, ça va vous faire du bien, ça va vous ouvrir sur l'horizon sur autre chose. C'est ça que ça fait là-bas aussi. Moi, je ne compte pas des points sur les actions que je fais. Je sais que c'est très important, qu'elles sont même indispensables. Et que de nous empêcher de les faire, c'est mettre un frein à la réinsertion des détenus.
Merci beaucoup, Mouloud Mansouri. D'ailleurs, on lit dans votre livre Manifeste pour l'accès à la culture dans nos prisons, des témoignages des artistes qui sont passés. Et ils sont en effet tous très émouvants à lire. Merci beaucoup.
Merci.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, on a appris hier la disparition de Xavier Duringer.
Le réalisateur et metteur en scène est mort d'une crise cardiaque ce week-end, âgé de 61 ans. Il avait commencé sa carrière au théâtre dans les années 1980. Il avait notamment créé et dirigé la compagnie La Lézarde, avec laquelle il avait présenté plusieurs spectacles, au Festival d'Avignon notamment. Mais c'est aussi à travers le cinéma qu'il s'est fait connaître du grand public en réalisant 8 longs métrages. Son premier film, La Nage Indienne, sorti en 1992, lui vaudra une sélection au Festival de Berlin et offrira à Karine Viard son premier grand rôle, pour lequel elle sera d'ailleurs nommée au César. Xavier Duringer réalisera entre autres La Conquête, un biopic dans lequel Denis Podalydès campe le rôle de l'ancien président Nicolas Sarkozy lors de son ascension au pouvoir.
Cinéma toujours, le CNC vient de donner des avances aux salles les plus touchées par la baisse de fréquentation.
Oui, car l'année 2025 n'est pas bonne pour les salles de cinéma en France. Depuis le mois de janvier, 110 millions de spectateurs se sont déplacés pour aller voir un film, contre 128 millions l'an dernier à la même période, soit une baisse de plus de 14%. Cette chute des fréquentations s'explique notamment par l'absence de locomotives pour dynamiser les entrées, comme ce fut le cas en 2024 avec des films comme Le Comte de Monte-Cristo ou Un petit truc en plus, qui avaient totalisé plus de 20 millions d'entrées à eux deux. Devant ces difficultés, le CNC va donc octroyer des aides aux exploitants de petites et moyennes salles, les plus touchées, sous la forme d'avances remboursables jusqu'au 31 décembre 2025.
Et pour finir, Marie, on connaîtra aujourd'hui le nom du prochain directeur de l'UNESCO.
C'est au siège de l'UNESCO à Paris qu'aura lieu ce lundi à 18h le vote des 58 membres du conseil exécutif de l'agence onusienne. Ils devront désigner un successeur à Audrey Azoulay, en poste depuis novembre 2017. Deux candidats sont actuellement en lice. L'Égyptien Khaled El Enani, désigné comme favori, et le Congolais Firmin Edouard Matoko, qui a rejoint la course il y a peu. Les deux délégations africaines mènent depuis une guerre diplomatique pour mettre toutes les chances de leur côté. En 2017, ils étaient 8 à candidater à ce poste clé, une réduction des prétendants qui témoigne des difficultés que connaît l'UNESCO, notamment depuis l'annonce du retrait des États-Unis prévu pour 2026.
Merci Marie, on se retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles.
À demain.
À demain. En attendant, il est 13h et vous écoutez France Culture.